est-ce un mal si grand pour la société? Remontons quelques années en arrière, ils vivaient cachés et pendant la guerre, on les supprimait en les déportant avec les homos, avec les gitans. Quand au Pinochet, Hitler ou Franco, quant à tous ces monstres et tous leurs bourreaux, s'ils avaient eu un chromosome en trop, on n'aurait pas tant de crimes sur le dos. Mais pourquoi toujours les montrer du doigt? Pourquoi parler d'eux avec ce mot-là? Et pourquoi ce mot fait-il rigoler? Et pourquoi, de quoi, de qui s'amuser?
Montrer du doigt, c'était Nathalie Solens.
Voilà, alors comme chaque mois dans Le Monde Libertaire du mois de février, Monica Journet nous offre son poème en noir, nouvelle ballade des pendus, en hommage bien sûr à François Villon. Comme toujours, la dernière page du ML vous donne les contacts des groupes de la Fédération anarchiste et la DER de Couve est consacrée aux nouveautés de février à la librairie Publico. Et ben voilà, nous voici à la fin de ce tour du monde libertaire. On se retrouve lundi 26 février à 18h sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la glorieuse Fédération anarchiste. Merci Monique et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Et n'oubliez pas, ni Dieu, ni maître.
T'as besoin d'oseille, tu cours toujours à court de jus, c'est la surchauffe. Tu perds du poids, tu passes ton tour, faut qu'il dégraisse, faut que tu débauches. Va faire un crédit, c'est TLM, pour te payer la nouvelle BM. Sors ton costume, faut que tu consommes, si t'as pas de thune, t'es pas un homme. Faut que t'assures, faut que tu dépenses, essaie de sauver les apparences. Va faire un crédit Cofidis, pour payer les Nike à ton fils. C'est l'engrenage, t'es pris dedans, tu vois ta dette qui s'accumule. Tu dois rembourser sur 100 ans, ça chauffe pour ton matricule. Va à la banque alimentaire, demande du blé à l'abbé Pierre. Ça accélère, c'est plus possible, ça va trop vite pour tes guiboles. T'es pris au coup, t'es pris pour cible, on te l'avait pas dit à l'école. T'as plus qu'à finir chez Bébert, te saouler à la Jupiler. Les temps modernes. T'as le spleen, t'es has-been, t'as pas la dernière machine. T'as plus de boulot, t'as plus de copines, ta vie tient même plus un fil. Va faire un tour sur la toile, te refaire un réseau social. Derrière ta cam de surveillance, tu te sens pas en sécurité. Tu reconnais plus ta douce France, y'a trop de bougnoules, y'a trop de PD. C'est pas que de la faute à Rousseau, si t'es devenu un vieux facho.
Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et d'industrie de l'alimentation, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois, par ses militants, sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens, pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold.
L'édito du lundi 29 janvier 2024 du Monde Merveilleux d'après. Bonne année, bonne santé, bon anniversaire Eric, c'était la semaine dernière, il y a 15 jours.
Ah, bon anniversaire.
Bah oui, mais comme on n'a pas fait l'émission, voilà. Donc ce soir, peut-on faire du syndicalisme en 2024, cette nouvelle année ? Que reste-t-il des droits syndicaux depuis 1895 à 1982 ? Alors, on est en 2024.
Mais oui.
D'ailleurs, ces droits syndicaux accordés par les gouvernements ne sont-ils pas depuis toujours les fossoyeurs du syndicalisme révolutionnaire au profit d'un syndicalisme réformiste plus conforme aux attentes des politiciens ? Ce ne sont pas les récentes actions des paysans en colère qui me contrediront. Qu'avons-nous à attendre des petits propriétaires terriens syndiqués, la FNSEA ? Il reste encore la Confédération paysanne. Et tous les paysans ne sont pas des salauds, j'entends, qui salissent la terre avec des produits chimiques, engrais et pesticides. Mais on voit bien que dans certaines régions, les paysans s'en prennent aussi bien au gouvernement, dont ils aimeraient davantage de soutien financier, qu'à l'inspection du travail, qui reste un organisme étatique, mais qui défend le droit des travailleurs que ces paysans voudraient voir devenir le droit du patron. Donc ce soir, échange libre et retour d'expérience sur nos années de syndicalisme, mais aussi de l'impact du militantisme sur les salariés, du développement du juridisme qui l'emporte sur l'action directe, et de plus en plus, de la faiblesse des forces militantes, alors est-ce que l'un n'induit pas l'autre, et du nombre d'adhérents, de la cogestion patron-confédération pour le maintien du pacte social, et de dessiner des perspectives, quelles qu'elles soient.
Que je m'acharne obstinément à passer tous ces entretiens. Mais tout ça pue rien. Ce poste-là, je l'aurai jamais. Je me suis déjà fait valider. Je n'ai pourtant plus rien à prouver. Tout ce qu'il manque, je l'ai déjà fait. Il m'appelle le syndicaliste, la plus rebelle de l'Aïssé. C'est vrai que j'ai tendance à contester, mais tu jures d'une façon structurée la plupart de leurs procédures. Mais ça fait 5 ans que ça dure. Le management n'est qu'une mafia. Devrait bien les relégats. De toute façon, je n'y entrerai pas. Ils se sont toujours foutus de moi. Tu m'appelles le syndicaliste. Mais un jour, lorsque l'on m'a donné le feedback sans convoiter,
Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 et c'était les beaufs, avec un point d'exclamation, le syndicaliste.
Ouais, d'Éric, ça.
Oui, c'est... je trouve ça assez drôle. Ouais. C'est frais. Et puis, bon, c'est de circonstance.
Alors, ce soir, une émission entre nous. Hein, ouais.
C'est le volet
à la technique. Éric, l'animation. Et puis, Fabrice, pour joli.
Comme c'est bien dit.
Donc, ce soir, une émission sur 2024, et est-ce que c'est l'année d'un renouveau syndicaliste ou est-ce qu'on peut encore faire du syndicalisme ? Alors effectivement, les mouvements d'agriculteurs et peut-être des camionneurs aussi qui bloquent un peu les accès pour arriver à Paris, ça pourrait participer. Alors c'est peut-être plus de l'action politique, mais c'est organisé par des syndicats. Mais ça participe peut-être. On peut dire que l'année commence bien. Oui, non,
oui,
on ne sait pas ce que ça va donner.
On ne sait pas trop en fait. J'ai de plus en plus réticent à l'enthousiasme.
Oui, alors comme j'ai dit dans l'édito, c'est quand même, faut quand même pas oublier, quitte à ce que des camarades ou des agriculteurs écoutent, ce sont quand même des petits propriétaires, souvent des petits patrons. C'est pas juste, c'est fini, hein, le temps des journaliers et tout ça. Il y en a peut-être sans doute encore, mais en ensemble, ce sont des petits propriétaires. Je sais pas si tout le monde connaît bien ce milieu. Bénédicte, tu peux peut-être nous en parler aussi, si tu as envie. Mais c'est quand même pas des gens de gauche. C'est pas des gens qui se prêtent au syndicalisme. C'est plutôt ça rentre plutôt dans les syndicats, dans le genre chambre patronale, syndicale patronale. C'est de la corpo, plus que de vouloir faire la révolution, quand même. Hein, donc, si j'ai pu choquer certaines personnes dans l'édito.
C'est fait exprès.
Voilà.
Soyons clairs. Non, ça a été une émission qui finalement, alors l'actualité porte l'émission, c'est assez bien finalement pour nous, parce que l'idée de l'émission c'était quand même aujourd'hui de s'interroger sur est-ce qu'on peut effectivement faire du syndicalisme en 2024. Moi je me suis posé la question, je continue à me poser la question, sous quelle forme, est-ce que ça a du sens, parce que l'engagement des salariés est quasi inexistant dans la réalité, le militantisme des salariés dans les syndicats, même l'adhésion, enfin je veux dire
l'adhésion c'est déjà pas énorme,
pas brillant, ouais.
Alors le militantisme, ouais, on pourra en parler, ouais. J'ai des trucs à dire.
Donc on est autour de 10-11%, hein, paraît-il, entre 7 et 11, on va dire, entre 7 et 11.
Faut tirer.
7 et 11% d'adhérents à des syndicats. Alors parfois, il y en a deux quand même qui sont assez particuliers. C'est la CGC qui est corpo, hein. Ouais, et la FSU. Ça aussi c'est corpo, hein. Ceux-là sont un petit peu
catégoriel.
Enfin, catégoriel,
ouais. CGC en tout cas.
Ouais, bon, les deux sont catégoriels. Les autres c'est des profs. Et, c'est assez curieux comme syndicalisme. Comme s'il y avait qu'une seule catégorie de travailleurs. Enfin bon, voilà, ça m'échappe un peu. Et puis les autres, ils sont pas tellement. Ils représentent qu'eux-mêmes souvent. Hein. C'est une espèce de faire-valoir des différents gouvernements, d'un État qui a besoin d'un pseudo-contre-pouvoir pour justement conforter le sien. Au nom d'une pseudo-démocratie représentative ou je sais pas quoi. Donc oui, je pense j'ai l'impression qu'on joue une pièce avec beaucoup d'hypocrisie en fait. Tu fais un pas de côté, tu te dis c'est ça les syndicats. En plus hier, alors il m'arrive de regarder sur l'ordinateur des émissions bourgeoises.
Ce truc que j'en ai entendu parler.
Ouais.
Par un de mes collègues qui ne revendique pas l'extrême droite, le fascisme, mais elle a bien les idées. Il y avait une vision autoritaire.
Il y avait une émission notamment sur il y avait un truc, je ne sais pas, j'ai pris ça en cours de route, et c'était en fait au sein d'une boîte de nettoyage,
ouais.
ISS,
ouais.
Où les délégués syndicaux avaient des salaires très confortables. très très confortable par rapport au salaire de base du salarié qu'ils étaient censés défendre, représenter.
Par rapport aux grilles des salaires aussi, quoi.
Oui, oui, oui,
bah, c'était vraiment, voir, on m'a dit c'était le triple, au moins le triple.
Il y avait un salarié qui est sous le couvert de l'anonymat, était interrogé, il travaille de nuit, hein. Donc ça reste de nuit, ça veut dire normalement, il était payé comme s'il travaillait de jour, 1 700 €. Bon, le délégué syndical, alors il cumulait un certain nombre de... En fait, il déclarait des heures de délégation ou d'action, je ne sais pas quoi. Ça fait, pour certains, ça les faisait monter à 9 000 €.
Ah ouais, quand même.
Donc on est bien, hein. On est bien, ouais, ouais.
Alors...
Et le pire, je termine là-dessus pour vous faire réagir, le pire, c'est qu'il y a une déléguée syndicale FO qui a réagi, qui est montée au créneau, avec tout... elle s'est faite allumer comme un pétard du 14 juillet, et même, sa fédération lui a retiré son mandat.
Ouais.
Eh, royal au bar.
Hein. C'est le prix de la paix sociale dans les entreprises. Voilà, donc.
Sachant que les conditions de travail dans le nettoyage, c'est aussi un peu particulier, les relations patron-employeur.
Justement, on peut avoir, effectivement, il y a eu une évolution. Hein, alors, il y a une évolution du droit du travail, il y a une évolution du syndicalisme. Du militantisme, et le problème, c'est qu'il y a les syndicats finis par trouver, enfin, réformistes, hein, j'entends, ont réussi à trouver leur place, et oui, la paix sociale, ça s'achète, alors ça s'achète au niveau du gouvernement, mais ça s'achète aussi au niveau des entreprises, peut-être des fédérations, bref, à tous les niveaux.
Mmh. Alors, ah oui, voilà, incontestablement, là, oui.
Effectivement, dans l'émission, je n'ai pas vu, c'est un collègue qui m'en a parlé, mais comme il a des positions douteuses, mais bon, tu confirmes, on ne s'est pas concerté avant.
Oui, c'est du factuel, hein, c'est après...
C'est la télé, quand même.
Oui, c'est la télé, oui.
Il faut le montage qu'ils veulent aussi. Ouais. Mais, alors surtout le nettoyage, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément super bonne presse, les délégués syndicaux.
Les syndicats non plus, d'ailleurs.
Hein
les syndicats non plus.
Oui.
Les délégués syndicaux, mais les syndicats.
Oui, c'est le problème un problème qui se pose peut-être. Alors, c'est vrai que tous les syndicats, d'abord, ne sont pas issus de la CGT. Il faut quand même. Je rappelle à nos chers auditeurs et auditrices. Qu'il y a des syndicats qui sont groupés au sein de la CGT, donc qui ont une origine commune. Et puis, il y a les syndicats qui sont issus de la CFDT, la CFTC, pardon, en 1919. Et donc, c'est une autre orientation, même si tous les syndicats se revendiquent de la charte d'Amiens, donc qui est pour la révolution sociale, quand même, avec la pratique de l'action directe, tout le monde ne le pratique pas. Et tout le monde n'a pas la même orientation. Et le problème, c'est qu'il faut aussi former les militants. Mais quand on a inscrit effectivement les syndicats dans un processus de reconnaissance nationale auprès de l'État, les syndicats ont tendance à négliger un petit peu la formation et faire de la distribution de cartes pour avoir cette représentativité nationale qui va leur permettre d'avoir ces assises, enfin ces entrées auprès du gouvernement, et de pouvoir négocier comme des bons réformistes. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais...
C'est clair,
ils sont rentrés effectivement dans un cercle vicieux quelque part. Alors il y en a qui étaient destinés à ça, hein, tout ce qui est issu de la CFTC, même si Sud... qui est issu de la CFTC par le biais de la CFDT, certains syndicats de Sud, hein, Sud Rail notamment,
vont faire un retour.
Effectivement, une autre vision, d'autres pratiques. Alors, on va dire la CGT aussi. Il y a ceux qui viennent de la CFTC, ils sont issus de la CFTC et ceux qui sont issus de la CGT. Et puis, chacun prend une orientation en fonction de la difficulté d'implantation dans le secteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover aussi, hein, dans le. Dans certains secteurs, on va parler ne serait-ce que du commerce. C'est un secteur qui syndique quand même des salariés qui n'ont pas ou peu de qualifications. Et avec un turnover quand même assez important, constitué aujourd'hui aussi pas mal d'étudiants, des fois qui finissent leur carrière chez dans le commerce. Oui. Mais bon, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Donc c'est un peu difficile de faire du syndicalisme. Et ben ceux qui restent, qui s'implantent et qui font une longue carrière dans le secteur du commerce, ils ont trouvé aussi le moyen d'améliorer leur confort de vie. Parce que c'est du travail 6 jours sur 7, hein, le commerce. Enfin, en fait, souvent les commerces sont ouverts 7 jours sur 7, mais au moins les salariés ont des contrats de 6 jours sur 7. Et c'est un moyen aussi de pouvoir, avec les heures de délégation, récupérer des heures de repos. Alors, c'est très, très individualiste d'une part, et puis c'est très. Ils pensent qu'à leur gueule, quoi.
Oui, c'est ce que reflétait, en fait, exactement ce que reflétait les quelques minutes de reportage que j'ai pu voir. Et la question que posait le... Alors bon, c'était évidemment un coupe au montage, etc. J'imagine que c'était l'intention du reporter, enfin du journaliste. C'est de dire, la question du salarié, c'était de dire, mais ça ne va pas nous réconcilier avec le syndicalisme. Ce qui en soi n'est pas faux. Enfin, je veux dire, même si, par ailleurs... moi, je pense que le syndicalisme, ça reste, en tout cas le syndicalisme révolutionnaire, ça reste en 2024, on le verra peut-être au cours de l'émission. Je pense que la seule voie, d'abord la seule voie qui n'a pas été explorée, hein, je suis désolé, mais, de manière vaste, complète, à un niveau, à une échelle au moins nationale, en France. Et puis ça nécessiterait un bouleversement des mentalités, une espèce d'abord une révolution personnelle avant de faire une révolution sociale et libertaire, parce que là on n'y est pas, hein.
On n'y est pas du tout, mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui espérer voir les mentalités évoluer vers quelque chose de plus social, plus socialiste? Je parle pas d'anarchiste, hein, est-ce qu'on est quand même beaucoup dans de l'individualisme? Chacun pense qu'il peut s'en sortir par lui-même. Oui, quand on voit le développement des l'ubérisation, c'est qu'il y a quand même, les gens n'ont pas trop le choix, mais ils y voient une solution de professionnel, enfin je sais pas, c'est pas le...
Alors, je sais pas si tu as vu, les chauffeurs Uber se rassemblent maintenant en syndicat. Donc il y a forcément, à un moment donné, ils ont tellement été essorés, parce que c'était effectivement des individus qui avaient une position de survie souvent qui de manière individuelle, voire individualiste, même sans s'en rendre compte, prenez des clients, prenez des marchés, faisait des heures, mais vous travaillez 20 heures par jour, dormez dans leur voiture, enfin des choses de délirantes, quoi. Et jusqu'à ce que ça soit plus possible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, jusqu'à ce que peut-être l'un ou quelques-uns d'entre eux discutent, puisqu'ils finissent par sont de plus en plus nombreux, donc avec le nombre, ils ont fini par se rencontrer, ils se disent, c'est une situation qui est épouvantable. Situation familiale, situation personnelle, situation de santé, situation psychique, enfin voilà, à un moment donné, on implose, quoi. Et donc, c'est ce qui a peut-être favorisé, c'est la pression qu'ils se sont mises eux-mêmes, finalement, qui a favorisé leur retour à l'esprit collectif de lutte. Alors après, est-ce que ça va durer?
Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un esprit collectif de lutte dans le sens ouvrier où nous on l'entend, ou dans le sens où l'entendent les petits producteurs terriens? Très corpo, en fait.
Ouais. C'est corpo, oui.
Enfin, ça va pas faire avancer le schmilblick.
C'est corpo, et je pense que c'est corpo dans la mesure où déjà, ils n'envisagent pas de se... pas parce que j'ai lu, hein, ça a changé depuis, mais j'ai lu ça il y a quelques mois, c'est l'objet de l'article à la rentrée. Donc c'est un entre-soi, on utilise nous ce mot-là avec un autre sens dans cette émission, mais c'est un entre-soi, et ils se sont affichés tout de suite un adversaire qui est la corporation des taxis, qui elle est organisée de longue date. Donc plutôt bah, déjà trouver c'est curieux de se définir, on se définit par rapport à un adversaire, je n'ai pas dit un ennemi hein, parce que c'est, mais par rapport à un adversaire c'est, ça part mal l'histoire, enfin pour moi il y a un truc qui ne va pas quoi. Plutôt que d'aller voir les taxis ou leurs représentants ou je ne sais quoi faire des assemblées générales mixtes. Je sais pas, là, il y aurait une...
Ah, mais il y a peut-être aussi une hostilité réciproque. Hein. Mmh. Je pense pas que les taxis aient bien accepté l'arrivée des Uber. Mmh. Mmh. Non
oui. Mais non, juste une question. Ouais. Les Uber, c'est des auto-entrepreneurs, non
oui.
Ouais, oui, c'est ça. Ça c'est
alors
ça.
Que les taxis sont leurs propres patrons, non?
C'est quoi la différence?
Non, je sais pas. Non, mais justement. que
non, c'est juste une différence de statut.
Oui, voilà.
Parce que les... oui, c'est ça. En fait, ils sont artisans. Les taxis sont artisans. Oh, mais bossent seuls. Enfin, je veux dire, c'est... après, ils se regroupent, mais ils sont artisans. Donc, ils ont acheté souvent leur licence. Je veux dire, tout le temps, leur licence et leur véhicule à des prix, mais lunaires. Quoi. C'est des plusieurs centaines de milliers d'euros. Et les mecs, ils cravachent ensuite pendant des années pour rembourser le capital et les intérêts, et après enfin dégager quelque chose qui ressemble vaguement à un salaire. En tout cas, un revenu, parce qu'ils ne sont pas salariés, mais un revenu. Alors et que les auto-entrepreneurs sont un peu dans, le même, dans la même situation. Quoi.
Sauf qu'eux, ils n'ont pas eu à payer cher cette franchise, ils ont tout de suite été mal payés. Sans espoir, faut s'ils achètent leur bagnole, sans espoir de s'enrichir.
Oui, et puis ils peuvent pas non plus... alors c'est vrai qu'ils ont les taxis ont ce que tu disais c'est vrai que les taxis ont en tant qu'artisans ils doivent faire un effort, ils ont des voitures quand même assez je sais pas si on peut dire luxueuses mais en tout cas confortables, enfin des limousines, des choses un peu
qui transportent
un peu peut-être moins maintenant j'en sais rien.
Ouais, ça fait peut-être c'est vrai qu'on leur impose un peu une couleur, un ton parce que c'est du noir souvent. Mmh. Effectivement, que ça fasse un peu limousine, que ça fasse classieux.
Ouais.
En général, ils peuvent pas être en jogging. Bon, les chauffeurs de taxi non plus. Mmh. Ça veut pas dire que les chauffeurs de taxi qui ont des Mercos, Mercedes. Mmh. Ça doit être bien. On les voit pas rouler en Rolls, mais bon, c'est autre chose. Ça, c'est les chauffeurs de maître.
Ouais. Mais du coup, les autres entrepreneurs, ils doivent finir par s'aligner sur le... Parce que la clientèle, elle est... au départ, c'était effectivement des voitures très banales, enfin... petit à petit, elles sont propres maintenant, les voitures, elles sont propres.
Uber, justement, a toujours imposé de limousine. Pas une marque spécifique, mais...
ça fait pas flotte, quoi. Donc il faut qu'ils... Oui, alors là, par contre, il faut qu'ils achètent leur voiture, il faut qu'ils soient propriétaires de leur voiture, il y a des frais quand même, c'est pas...
Qu'ils empruntent...
Une voiture, je sais pas, ça faisait 50 000 euros leur voiture, un truc comme ça.
Je sais pas, mais ça doit pas être les premiers...
Donc forcément, ils ont un crédit...
C'est pas une Berlingo, un Kangoo.
Une Fiat Punto.
Ah, ça transporte, désolé. Donc oui, on est sur, sur des petits patrons. Quoi. Des petits patrons qui disent pas leur nom, mais c'est des petits patrons. Ouais. On retrouve à la catégorie de ceux dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire les agriculteurs, pour une partie d'entre eux, même s'ils sont seuls sur leur exploitation, ils sont jamais tout à fait seuls, parce que là aussi, c'est un autre type de solidarité, c'est-à-dire que souvent... d'après ce que j'ai écouté aussi les derniers jours, là, si l'agriculteur ou l'agricultrice en titre sur son tracteur, il y a toutes sortes de petites mains. D'abord, il y a la famille qui vient aider, en plus du boulot qu'ils exercent, parce que ça ne suffit pas de faire l'agriculteur pour faire vivre une famille, et puis qu'à un moment donné, ça permet d'assurer les coups durs, quoi. Quand on a un job, quand la femme ou l'homme a son conjoint agriculteur, triste, si lui il a un revenu fixe, je sais pas moi, dans un job à peu près normal, m'en payé, en cas de crise de la betterave ou de je sais pas quoi, ou de la vache folle, ça permet de payer les factures d'électricité, ça permet de bouffer un petit peu, ça permet de... Ouais. Donc on est, là aussi on est sur... des modèles qui sont pas des modèles. Je crois qu'il y a la façon dont on regarde, on nous montre les agriculteurs, c'est pas très honnête non plus. Les médias nous montrent les agriculteurs, c'est pas très honnête non plus. Et puis à côté, il y a ceux qui n'en ont rien à faire, c'est des céréaliers, des betteraviers, ceux qui ont 3, 4, 600, 800 hectares, et qui de toute façon, ils ont un type qui a un machin télécommandé, puis c'est le tracteur, il est tout seul, il sème, il plante, il sarcle, ils n'en ont rien à faire en fait.
Oui, de toute façon, il y a plusieurs types d'agriculteurs, ouais. Hein, donc effectivement, moi j'ai rien contre. Je viens de province quand même, alors c'est plutôt de la Champagne. Je peux dire que j'ai côtoyé des vignerons. Alors, quand je disais, c'est des petits patrons, des petits propriétaires. Bon, c'est vrai. Souvent, y a ceux qui n'ont pas grand-chose, qui vivotent. Mmh. Ouais, bah, on entend souvent parler justement de ceci. Mmh. Et puis, il y en a d'autres qui sont un peu plus aisés quand même. Mmh. Sans faire partie de l'agro-industrie. Mmh. Il y en a qui ont du flouze, hein, je peux vous le dire. Et ça n'empêche pas, de toute façon, le travail collectif. Et là je pense à la Champagne, où de toute façon, tu vas avoir des pressoirs collectifs. Mmh. Ils vont travailler ensemble, ils vont mélanger leurs raisins. Mmh. Ça n'en fait pas des anarchistes, ça fait pas. Ils restent quand même, ils ont quand même une mentalité de petits patrons. Mmh. C'est pas. Voire même. Du souvenir que j'en ai gardé, voire souvent méprisante vis-à-vis à la limite de ceux qui donnent un coup de main, qui ne sont pas propriétaires quand même. Hein. Ouais. Ils se la pètent un peu quand même. Bon, enfin voilà, je dis ça. Mais bon, ça c'est mon expérience. Je n'ai pas fait tout le tour de France pour savoir comment ça se passe. Je sais qu'il y a des petits exploitants qui en bavent, ouais. Ça c'est sûr. Bénédicte en connaît peut-être aussi. De toute façon,
c'est surtout les éleveurs, hein, de toute façon, de manière... Plus les éleveurs, le céréalier, ouais,
L'éleveur, il a des contraintes. Ouais, hein. Ouais, c'est que l'animal, c'est...
Faut le nourrir.
C'est tout le temps, hein. Tout le temps. Hein. Je sais de quoi je parle, maintenant. salut, Popoc.
Mais il donne pas de lait. Ni d'œuf. Un chien. Il fait des crottes. Faut les ramasser, en plus. Enfin, bref.
Donc, c'est ça, c'est il y a différents puces, voilà, dans les types d'exploitation, comme dit Bénédicte, il y a ceux qui ont des contraintes pour l'élevage.
Oui, ce que j'allais dire, même dans l'élevage, tu as des sous-catégories, ouais. Celui qui fait que de la viande, je pense qu'il s'en sort mieux que celui qui fait du lait.
Donc, voilà, c'est une situation complexe, je crois que et ce que j'ai pu voir, moi, de ce que disent même j'ai l'impression que les journalistes, ils sont cons comme des balais, voire ils le font exprès, mais ils ne transposent pas correctement les situations. Je suis pas sûr qu'ils comprennent bien ce que c'est que le monde agricole, agro-rural.
C'est le monde du travail qui comprend.
Ouais, c'est assez dingue et il y a aussi quelque chose qui m'agace profondément, c'est que très bien, on est viticulteur, on vient couiner parce que on est obligé d'arracher des plants, parce que des quotas, parce qu'il y a une maladie, un champignon, je ne sais quoi, et qu'il n'y a personne pour venir travailler, la terre se vide de ses bras, etc. Faut me rappeler qu'il y a quand même les saisonniers qu'on fait venir de l'Afrique du Nord. Qu'on loge dans des cabanes en tôle, ça existe toujours, hein, pour faire les vendanges, hein, pour travailler.
C'est dans le sud, ça, alors.
Ouais, oui. Et ensuite, qu'on renvoie comme des malpropres.
C'est nous, en Champagne, on prend les Romano.
Bah oui. Ah. Non, mais voilà, c'est à un moment donné, on n'en entend jamais. Ça dure que depuis la nuit des temps, hein, c'est de pire en pire. Hein. Mmh. Et les conditions, alors, les jeunes étudiants qui font les vendanges, ça c'est le folklore. C'est parce que c'est dur, et d'une, et puis parce que ça t'amuse 8 jours, mais ça t'amuse pas pendant.
Ça dure pas des mois, les vendanges.
Non, non, mais. La manœuvre étrangère, elle fait plusieurs exploitations parce que en fonction les vendanges sont pas faites tout au même moment dans les différentes régions. Donc ils essaiment, leur but c'est de gagner un peu de pognon pour retourner chez eux avec un peu de flouze, quoi. Mmh. Donc, ouais, ça, on n'en parle pas, par contre. On n'en parle pas, alors que c'est vraiment des sales exploiteurs, quoi. C'est une... Si, faut le dire. Ouais, en tout cas, je le dis. Parce que... Alors, c'est une autre vision du monde agricole, hein. Ou les bassines, c'est pareil, hein, cette captation du bien collectif qui est la flotte consommable, hein, potable, au nom de, c'est parce qu'on vous nourrit que, j'en ai dit, les FNSEA qui est aux premières loges, hein, pour mener les combats l'an dernier, pour dénoncer l'écoterrorisme. Mm. Bande de fumiers, alors que eux-mêmes empêchent ensuite l'usage de cette eau qui est captée pour quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes.
Ouais, alors, de toute façon, l'eau des bassines, c'est pour pour le coup, c'est pour l'agro-industrie. Mmh. C'est pas pour le petit paysan.
Ah oui, non, clairement. Ouais. Mais bon, voilà, on est sur des problématiques complexes et la FNSEA, qu'il faut pas l'oublier, a été fondée en 44 ou 46 sur les ruines d'une confédération un peu louchissime créée en 43 qui elle-même est sur les ruines aussi d'un truc assez corpo créé en 40 par Pétain. Dont le nom m'échappe, je crois que c'est. Je retrouverai. Je regarderai mes sources à un moment de la pause musicale. Je redonnerai les noms. Et.
Ça va balancer.
Ça va balancer. Et donc, qui va croire. Alors après, on peut me raconter ce qu'on veut, mais qui va croire que la structuration du monde paysan voulu par Pétain va disparaître en 1944 pour céder la place à une nouvelle structure représentative du même monde paysan, et hop, on change tout, on fait la révolution intérieure, extérieure, voilà, et avec de nouveaux réseaux, de nouvelles personnes, de... Non, c'est les mêmes qui ont bouffé tous les râteliers, quoi. Donc, ça aussi, la FNSEA, s'ils pouvaient tous aller crever... Et puis, de toute façon, ce qui a été révélateur de ce syndicat, quand même, qui est un syndicat de patrons, de vrais patrons qui sont là pour faire marcher le monde rural et agricole à la trique, mais qui perdent du terrain. Ils perdent du terrain parce que j'ai écouté des journaux télévisés et à plusieurs reprises, des intervenants des FDSEA, donc les départements, les responsables de département. C'est les FDSEA, parce que les FDSEA, c'est national. Et donc, qui disait, alors parmi les paysans, enfin les agriculteurs qui sont mobilisés, bon, tous ne sont pas syndiqués à la FNSEA. Donc, et il y en a plusieurs qui ont répété ça. Comme quoi, ça les enquiquine qu'il y a eu cette coordination paysanne, qu'il y a eu cette espèce de la base qui s'est un petit peu fédérée autour d'un bonhomme ou d'une idée ou d'une voilà, et puis que ça a fait coupe sa boule de neige, que les autres ont dû essayer de freiner les cas de fer pour dire nous en bon chiracien on va aller voir Macron, ça va bien se passer les filles, et pas du tout, et c'est parti en vrille. Et après ils ont récupéré le mouvement, ça c'est, ils disent que non, mais moi je dis que oui.
C'est ça qui est important.
Primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tight-knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. The stakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised.
Rats are getting wrecked. erects the gallows. We'll have them swinging round the clock.
Vous êtes à l'écoute du Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4 et c'était alors Malice in Plunderland, c'est ça?
Oui, bravo.
Hein, de Steve Thorne.
Ouais. Nous en français on dit Steve Thorne.
Oui, mais j'aime bien crâner.
Non mais t'as raison. C'est... Hein voilà, donc bah, on reprend le cours de notre émission. Effectivement, comme l'a dit Bénédicte, on est dans l'émission Le Monde Merveilleux du Travail sur Radio Libertaire 89.4. Et puis, nous inquiétons de savoir si on peut encore faire du syndicalisme en 2024. Alors, on s'est aperçu, on a beaucoup discuté que le syndicalisme, pour l'instant, enfin, il a débuté par du syndicalisme patronal. oui, c'est du syndicalisme quand même. Alors, ça participe, hein, parce que le fait de bloquer, alors c'est pas juste bloquer les accès routiers pour empêcher les véhicules d'aller au boulot ou quoi que ce soit, même si ça peut participer, c'est aussi la sortie des aliments, de certains aliments, de certains camions, des champs camions de froid, tout ça. Et moi, je peux vous dire que là où je bosse, trois jours qu'il n'y a rien à bouffer.
trois jours que je... Ça te réussit?
Eh oui, j'ai rien à bouffer, mais j'ai pas perdu un gramme.
Alors, et pour l'anecdote, la FNSEA a été créée la même année que
CFTC.
CNT.
CNT ouais. Oui, mais de toute façon, tu sais, ils ont tous. À l'après-guerre, il y a tout un tas de syndicats qui ont été créés, parce qu'il y a 40.
On dit que la CNT est née en 46, oui.
46, décembre 46.
46, c'est décembre 46, sur un congrès qui a débordé sur janvier 47, me semble-t-il. Ouais. Donc, sachant que EFO a été créé en 47.
Ouais, une...
hein, et tout ça, c'est dans la foulée 46-47. Fin 46, début, ouais, fin 47, sur un an. Donc, oui, c'est...
Alors, je balance, là.
Balance. Tu l'avais promis.
Méchamment. Donc, la FNSEA est issue d'une confédération générale de l'agriculture qui est née en 1943. Donc, un peu louche, hein. S'il avait des autorisations, c'est que... Bon, évidemment, qui s'est opposé... Lorsqu'elle s'est, bien sûr, ça devait être assez sanglant comme opposition, à la corporation paysanne qui avait été mise en place par Pétain en 40. Donc ça devait être des. Bah, ils devaient être intraitables hein, contre la corporation.
Ah oui, je pense. Oui.
Et puis tout ce petit monde-là s'est retrouvé en 46
à FNSEA.
À FNSEA. Voilà. Donc on sait d'où vous venez.
Alors, ce ne sont plus les mêmes personnes, non, mais il y a des choses qui se transmettent.
Bah oui, non, c'est... d'un autre côté, effectivement, il y a une véritable détresse, hein, comme on l'a dit, du monde paysan, mais il y a une détresse aussi... il y a autre chose qui m'a marqué, et je pense qu'on pourrait avoir deux, trois réflexions à ce sujet, c'est que Macron n'a pas envoyé ses soldats du roi pour aller tirer sur la gueule des bloqueurs d'autoroute. Nous, oui, on ouvre une ZAD, on se fait flinguer. Il tire à balles réelles, oui, quasiment.
Mais il n'a pas dit qu'on n'envoie pas les CRS quand c'est des revendications sociales ou un truc comme ça. Je crois qu'il a dit un truc...
Ah oui, ah ouais, d'accord. Ok, bah je retire ce que je viens d'accord. de dire, hein, c'est vrai.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais oui, bah c'est... Ben, oui, les manifestants jusqu'à maintenant, c'était des casseurs, des black blocs, des jeunes de cité. C'était pas des revendications sociales. Voyons. Vous voyez ce que je vous dis.
C'est consternant.
Oui, oui, c'est...
Consternant, donc...
Il sait à qui il a affaire, en fait. Voilà. C'est des personnes qui remettent pas en droit, justement, en cause le droit de propriété. Alors, vous savez, chers auditeurs, chères auditrices, que nous, en tant que syndicalistes révolutionnaires, ou même, on est quand même sur une radio de la Fédération anarchiste, la propriété, c'est le vol. Donc, effectivement, on aurait plutôt tendance à être... on n'est pas dans le... Dans le move, dans le moule, dans je sais pas, dans je sais pas quoi.
Dedans en tout cas.
Voilà, on n'est pas dedans. On le prend, dedans, mais on n'est pas dedans. Donc voilà, quand je dis nous, alors c'est pas seulement nous en tant que militants, hein, c'est aussi les militants que nous sommes autour de la table, des milliers. Mais c'est aussi tous ceux qui sortent parce que ils ont faim. C'est aussi bien les gilets jaunes, hein, qui les gilets jaunes et les jeunes qui constituent les black blocs. Je dis ça les jeunes parce que faut quand même pouvoir
courir.
Voilà, chose que je peux
vite,
plus faire.
Vite.
J'adhère assez bien à leur idée, à leur tactique, mais je peux plus. J'ai du mal à marcher, alors c'est pas pour courir. À glisser peut-être, tomber. Enfin voilà. Donc,
rouler peut-être.
Oui.
C'est méchant. Ça,
oui,
ça va se payer cher, ça je pense.
Franchement, c'est même discriminatoire. Attention. Hein? Attention.
Ah.
Attention.
Je pense qu'on va rester en justice.
Ah, mais ça va
en tant que syndicat.
Ça va se régler à la maison, ça, tu vas voir.
Donc, oui.
Oui, une sacrée hypocrisie de la part de Macron. Bon, enfin
oui,
bon,
enfin, bon
à quoi s'attendre d'un type pareil.
Oui, c'est assez, franchement. C'est assez anecdotique.
On s'attendre d'autres.
Mais c'est vrai que le pied de nez, quand même, ce qui était intéressant de l'histoire, c'est que... mais ça ne durera pas. C'est le pied de nez des agriculteurs qui ne sont pas syndiqués, en tout cas pas à la FNSEA, mais qui ont un autre projet. Alors, on pourrait, la Confédération paysanne, c'est un exemple, qui a un autre projet. et qui, là, en revanche, sont complètement inaudibles. C'est-à-dire, et on s'arrange pour qu'ils soient inaudibles.
Ah bah oui, c'est ça surtout. Mmh. C'est que tu ne vas pas entendre quelqu'un, bah tu coupes le micro. Hein. Tiens, Bénédicte, coupe le micro, monsieur.
Mais je ne suis pas de la Confédération paysanne, moi. Donc, ouais, c'est assez... parce qu'en fait, l'idée qui sous-tend cette problématique, c'est que c'est le droit à la bonne bouffe, en tout cas la nourriture saine et pérenne pour tous, à des prix accessibles à tous. Parce que, voilà, on est dans un environnement qui n'est pas pourri par le profit. Parce que l'industrie, en soi, c'est un outil. C'est ce qu'on en fait, comment on le pense, qui va jouer énormément dans la détérioration du...
Puis de toute façon, comme nous l'a bien fait comprendre Kropotkine dans ses écrits... ils utilisent des routes, ils utilisent des tracteurs. C'est la combinaison d'un effort collectif qui a construit ces tracteurs de terrassiers qui ont fait ces routes, ceux qui ont produit du goudron, tout ça. Donc effectivement, on devrait avoir droit en fait à avoir tout un tas de choses, de nourriture, même gratuitement. Moi, je suis pour l'abolition de l'argent, personnellement. Bah, on soit dans un autre rapport d'échange. Hein,
ça se crée. Hein. Il faut penser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi oui, mais ça appelle aussi à une révolution des valeurs. À une révolution des valeurs. C'est-à-dire que quelles valeurs t'accordes à un chou-fleur par rapport à une clé de 12, par exemple? Ça me vient comme ça. Mais.
La pièce senti. Oui.
Donc, tu vois, le chou-fleur, tu vas le consommer. Pas pour longtemps. Tu fais cuire, tralala, c'est bon. Clac. Ta clé de 12, elle va te servir. Alors, effectivement, on va te dire, l'un n'a pas la même valeur que l'autre parce que ça n'a pas fait appel à la même technique, donc au même investissement en temps, matière d'œuvre, etc. Après, c'est juste une question d'équilibre dans les échanges. Et puis se dire que...
Et ce qui compte, c'est que cet équilibre ne soit pas fait par quelqu'un qui vient d'en haut, qui a été désigné en haut.
Ah oui,
c'est que les producteurs, entre eux, décident.
Ce qui veut dire que
chacun met sa propre... peut-être un peu réducteur ce que je dis, mais chacun met sa propre valeur. Mmh. Voilà. Ouais, tu ne veux pas donner une clé de 12 si tu n'as pas 400 tonnes de patates, tu boucheras ta clé de 12 et puis tu n'auras pas... Voilà,
c'est... Mais ça, c'est pareil, ça se régule. C'est-à-dire qu'après, ceux qui produisent des clés de 12, ils permettent de régler les machines, régler les moteurs, je ne sais quoi.
Est-ce qu'on a besoin d'une clé de 12, personnellement, chez soi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir ça?
En collectif.
Puis dans le sable du village, on a un serviette dessus. Ça, c'est un peu les idées proudhoniennes aussi. Ouais. Je ne sais pas si c'est très bon, mais il y a des choses à faire. Hein. Pourquoi avoir...
Un atelier en partage.
Voilà. Comme ça fait moins de travail. Et puis ceux qui ont créé des clés de 12, plutôt que de passer leur temps à faire des clés de 12, puis ils restent chez eux à lire de la littérature...
Ou rien faire.
...politique. Non, mais si, il faut qu'ils s'instruisent quand même. Hein. C'est un peu... c'était le but. C'était le projet de pas de notre projet. Macron, Pelloutier. Hein, qu'on puisse disposer de son temps libre, pas seulement à se croiser les doigts de pied sur une chaise longue en buvant des tequilas ou je ne sais quoi, mais à s'instruire. Voilà.
Se cultiver,
s'instruire, et puis...
Écouter des émissions intelligentes, ça aussi.
Mais les faire.
Et les faire aussi.
Il y a plein de trucs, chacun fait ce qu'il veut.
Après, ça,
hein,
ça
faire du coloriage, pourquoi pas.
Ça participe de la... Tricot.
La cuisine, parce que ça sert pierre.
Ça c'est enrichissant.
De saines occupations.
Enrichissante au possible.
Torcher des quatre baumes. Hein, on a combien maintenant, Bénédicte?
C'est une question le temps. C'est comment quelle importance. Bah, je n'arrive plus.
Tu te rapproches du micro.
Ah, bah,
voilà.
Non, mais c'est le temps, c'est la gestion du temps. C'est comme quelle importance on accorde au temps. Comment on, ça, c'est un truc de dingo. Hein. Ça, c'est un truc de. C'est vraiment les patrons, le capitalisme a vraiment fait du temps une arme de guerre. Quoi. Une arme de guerre, qui est une arme de destruction massive. C'est-à-dire que, putain, on te paye pour être là, bordel, on veut que tu sois là, quoi.
Même... c'est ce que comprennent pas les salariés, souvent, qui justement font du... ils continuent de penser le travail en termes de travail à la tâche. Moi, je m'en suis aperçu, hein, dans le commerce. On leur demande d'arriver, admettons, de 7h à midi, 6 jours sur 7, mais non, eux, ils s'obstinent enfin, ils s'obstinent, on les aide quand même beaucoup. Enfin, les cadres, l'encadrement, c'est vrai que de plus en plus, enfin, dans ma boîte en tout cas, mais on les aide beaucoup à courir, à faire. Mais en fait, ils sont là pour occuper des heures, qu'ils aient quelque chose à faire ou rien à faire, de toute façon, il faut qu'ils soient là, tu ne vas pas partir plus tôt. Mais ils ont cette mentalité de travailler à la tâche. Donc.
Ils enchaînent les tâches.
Ils veulent, voilà, et puis finir leur rayon, même dépoter leur palette pour remplir leur rayon, même s'ils n'ont pas le temps. Donc ils vont forcer, ils vont faire des gestes qui ne vont pas être appropriés à une bonne santé. Donc, et puis ils vont se déglinguer le dos, les épaules, tout. Bon, ça déjà, ça arrive, même si on fait attention. Alors t'imagines quand tu ne fais pas gaffe. Mais tu vois, et ben ce temps, comme le voulait Pelloutier, si les salariés voulaient prendre le temps de lire un petit peu les ouvrages de Pouget, l'action directe, le sabotage, ils auraient peut-être une autre vision et ils se révolteraient, peut-être, un peu plus. Enfin, dans le commerce, j'ai du mal à y croire. Mais en tout cas, ils pourraient apporter une réflexion sur leur mode de travail, qu'ils ne font pas là.
Alors, ça, c'est du coup la question revient à la question du syndic. Est-ce peut-on faire du syndicalisme en 2024? Ouais, je pense que en tout cas les mouvements sociaux appellent à trouver une solution, en tout cas syndicaliste révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, à se saisir de ça. Donc moi je suis plus. Après, c'est comment. Alors, l'avant-garde révolutionnaire, c'est naze, ça n'existe pas, sauf à faire des chefs, à constituer des élites et des aristocraties.
Ça me va.
Ouais, bah non.
Ah, mais tu te fais ce que tu veux.
Non, moi, ça me va pas.
Mais je m'en fous.
Et puis, c'est pas. Ça peut pas convaincre ça peut pas participer à l'émergence d'une conscience, d'une prise de conscience, quoi, je crois pas. Donc c'est un peu.
Mais c'est pour ça qu'il y aura jamais la révolution.
Enfin, il y a eu des révolutions, mais c'est pas celle que.
Et puis, des révolutions qui n'aboutiront pas.
Ouais.
Surtout.
Oui, c'est ça. Donc le syndicalisme, alors le syndicalisme de la défense, il y a aussi différents types. Il y a celui qu'on a pratiqué, le syndicalisme de défense des droits. Mais là, c'est de la défense. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le... c'est un truc qui m'a aussi, j'ai pensé à ça, en tout cas j'ai réalisé ça, c'est qu'on était sur la défensive en permanence. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de droits dont on ne sait pas s'ils étaient, s'ils ont été conquis, acquis, cédés, etc. Enfin si, on finit par le savoir, mais... on est là à les défendre et à les voir disparaître. Les voir disparaître, rognés par les suppôts du pouvoir du maître, qui sont les parlementaires.
Ouais, mais alors moi j'ai toujours pensé qu'il y avait quand même une certaine complicité des instances dirigeantes des syndicats qui laissent faire. Alors sans doute ils ont pris conscience de la faiblesse numérique des militants, des adhérents et des militants. Et du coup, bah, ils ont trouvé un compromis avec l'État qui réduit à chaque fois les droits syndicaux.
Mais c'est facilité par l'individualisme. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est ce penchant qui aujourd'hui qui est une espèce de gangrène, c'est chacun pour soi, c'est sa carrière, c'est des petits arrangements, tu disais toi-même, prendre des ordres de délégation pour compenser ce qu'on n'a pas réussi à conquérir comme droit. Ouais, c'est moyen quand même. Ouais,
Mais c'est une réalité.
Ah oui, non, mais je conteste pas que c'est pas une réalité, mais c'est un constat d'échec.
Moi, je vois, là, il y a eu des élections, on en a parlé déjà. Donc, dans ma boîte, les premières, dès qu'à l'issue des élections, alors que c'était déjà les mêmes, c'était prendre des heures de délégation le week-end, vendredi, samedi, dimanche, puis quand il y avait lundi de férié, s'il y en a eu, avec les jours de fête, là ça fait 4 jours, c'est bien. Là j'ai une collègue qui dit je suis arrivé en retard, je vous raconte, mais c'est du factuel ça. En plus, il me demande à moi. Moi, j'ai pas d'heure de délégation. La CNT, elle était laminée dans la boîte par le vote des électeurs. C'est pas les autres syndicats, c'est les électeurs qui ont fait qu'on n'est plus représentatif. Mais donc, les certains représentants du personnel viennent me voir, c'est avec qui je parle encore. Ils sont pas nombreux, nombreuses. Et c'est j'ai pas pu venir lundi, j'étais malade. Là, on est mercredi. Est-ce que je peux prendre des heures de délégation à rebours pour... je dis, oui, tu fais ce que tu veux. Je dis, les autres, ils font ça pour se reposer le week-end. Prends. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon syndicat. Bof. Alors, je sais pas si elle l'a fait ou pas. Parce qu'il faut quand même avoir... Quand tu l'as jamais fait, parce que c'est une nouvelle adhérente, il faut avoir les tripes un peu accrochées pour dire, je les ai pas pris. Parce que normalement, doit déposer avant ces heures de délégation. Là, ils font après. Ils arrivent en retard. Ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver en retard. Alors, soit c'est les retards pour ne pas perdre des minutes, des quarts d'heure, de je ne sais pas quoi, pour ne pas perdre d'argent. Ils posent des délégations. Pour avoir des journées de repos, ils posent des délégations. Parce qu'ils ont été malades, ils posent des délégations. Ça leur permet de ne pas perdre les jours de carence. C'est très bien. Les salariés ont voté pour eux. C'est ce qu'ils veulent. Et puis une autre est venue me voir aussi, qui était elle suppléante et qui à qui le titulaire c'est la CFDT lui dit je peux te donner des heures. Donc elle me dit oui, je peux poser des heures tout ça. Je dis fais ce que tu veux. Faut que le titulaire donne un courrier à la direction pour prévenir qu'il te donne des heures, combien d'heures, à quelle fréquence, sur quelle période. Et toi, 8 jours après, tu pourras commencer à poser des délégations. Alors je me suis amusé à dire à ce directeur, ça va tomber les ordres de délégation là. Mais non, il ne faut pas le dire. Je ne sais pas pourquoi, il va bien falloir que tu lui dises, tu prends des heures. Donc ils ont quand même peur, mais on voit bien que les ordres de délégation, ce n'est pas fait pour faire du syndicalisme. Pas du tout, du tout, du tout. Le syndicalisme, ils font sur leur temps de travail. Alors, quelque part, je me dis... ça rentre dans le cadre un petit peu du sabotage. Plutôt que de bosser, tu passes 1h30 à jacter dans le bureau du CSE. Mais le boulot qu'ils ne font pas, il faut bien que quelqu'un le fasse. En revanche. Donc c'est du sabotage, mais c'est du sabotage pas trop contre le patron, mais aussi contre les collègues. Donc c'est un peu... Et pour leur intérêt personnel. Donc voilà, dans le syndicalisme, ils font sur leur temps de travail. En douce, et ils prennent les ordres de délégation pour rien branler. Et ça, la direction le sait. Ça fait des années que c'est comme ça. La direction le sait, et c'est comme ça aussi que tu t'attaches, tu crées la paix sociale. C'est, d'accord. On vous laisse faire vos petites magouilles, mais vous nous faites pas chier. Et les syndicats le rendent bien. Enfin, les élus. Les syndicats sont pas forcément au courant, mais de toute façon, je crois qu'ils veulent pas savoir. Ça les arrange bien.
Tu parles des centrales.
Centrales. Les syndicats,
les fédés
aussi.
Ouais.
Donc voilà, c'était un petit peu long comme explication. C'était la semaine dernière, ça.
Mais nous aussi, il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Et on nous a communiqué, le grand chef nous a communiqué les résultats, mais le nom des élus, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc voilà. Et ont été élus, gna gna gna. Et
ils n'ont pas affiché les procès-verbaux.
Il me semble que non.
Il y a des scores de chacun.
Oui, mais voilà. C'est pas le procès-verbal.
Non, il n'y a pas de.
Ouais. Parce que un collègue qui s'est présenté, il a demandé des procès-verbaux, on lui a dit non.
Ah bah c'est intéressant ça.
C'est intéressant. Mais bon, je lui dis, ça vous force pas à réagir.
Bah oui, c'est ça aussi, quand ils savent qu'il n'y a pas de...
Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'il y a... Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le, lui est tout nouveau, il s'est lancé dans une aventure un peu, je pense, qui était en partie pour protéger ses fesses.
On n'est pas du coup, maintenant, il est dans le collimateur, il n'est même pas protégé. Si, il est protégé.
Si, il est protégé. Oui, il faut qu'il se fasse. Alors, il a fait un score correct qui lui permet d'être.
Suppléant
Je ne sais pas. Je ne sais plus, parce que je ne me suis pas intéressé.
Non, non, même pas, non.
Il n'est pas, pas suppléant.
Non, non, il n'y a rien du tout. Mais il est pas du coup, il est délégué syndical, c'est peut-être ça qui le. Non.
Je ne sais pas, je ne sais même pas s'il a fait le...
S'il a eu 10%,
il il a eu 10%. Ouais.
Donc il peut être désigné délégué syndical, ouais, c'est une
c'est
manière de se protéger
fait.
Du coup.
Oui, ce n'est pas encore fait, donc je ne sais même pas. Alors je ne sais pas si je vais lui dire. Bon, si quand même. Je le vois demain. Je vais voir où il en est de son histoire. Parce que... Mais c'est vrai qu'il est... Lui en revanche, il est... Il est fragile au sens de. Alors bon, c'est pas. C'est, voilà, s'il y en a un qui doit partir, c'est lui.
Donc au mieux. Bon, ouais. Là, de toute façon, il est protégé 6 mois de fait de sa participation aux élections. Ouais. Donc il a le temps de se faire désigner.
Ouais. Voilà. Alors, il faut mieux qu'il le sache. Puis 6 mois, ça passe vite hein, quand tu ne fais pas attention, quand tu es dans le guidon. Donc, il fera des piqûres de rappel. Et voilà, c'est là aussi, c'est un. Alors le sein du coup, les élections donc dans la boîte étaient, il y avait plusieurs listes, enfin, sauf il y avait les trous de cul de la CGC, mais voilà, c'est pareil, c'est un tas de merde quoi. Donc le catégoriel pas intéressant. Puis c'est entre eux, ils votent les uns pour les autres, hein, ils s'élisent entre eux, ils s'aiment bien ou ils s'aiment pas en fait. Non, c'est pas vrai, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas, mais mais ils sont tellement dessus que finalement ils trouvent encore les moyens de s'essuyer les uns les autres. Donc il y avait deux autres syndicats, alors CFDT et CGT, c'est ça, hein, CFDT c'est CGT. CFDT c'est vraiment c'est la langue.
Est-ce que ça tient à la Confédération ou aux militants?
J'ai pas de réponse, mon petit gars.
Parce que, imagine que moi, je rentre à la CFDT, alors je serais peut-être pas soutenu par la Confédération ou le syndicat, mais en tant qu'élu dans la boîte, voilà, je ferais un travail, je ferais le même travail que j'aurais pu faire à la CNT, tu vois. Donc ça tient quand même aussi.
Fumier, tu serais rentré à la CFDT.
Non. J'aurais pu faire le même travail.
Arrête la provoque.
J'ai bien dit que j'aurais pas été soutenu par le syndicat et pas la Confédération. Mais je veux dire, une personne, ça arrive hein, que des syndicalistes, des salariés peuvent avoir quelques compétences, qui ne sont pas révolutionnaires, entrent dans des syndicats et font un travail efficace. Plus ou moins efficace en fonction de leur connaissance, de leur. Et voilà, donc ça ne tient pas quand même. Je ne suis pas sûr que les adhérents qui sont désignés délégués syndicaux répondent vraiment et connaissent l'orientation politique de leur syndicat. Moi, je vois, hein, par exemple, dans ma boîte, il y a l'UNSA. La UNSA, on sait que c'est un syndicat de droite. Enfin, c'est perçu comme ça. Sauf que le syndicat du commerce, avant il était à la CFTC, alors que pas spécifiquement de gauche non plus. Mais les mecs qui l'animent, qui sont dedans, on sent bien que, en tout cas dans le discours, ils sont un petit peu combatifs.
Un côté gospel. Discours.
Enfin, pas tous, j'en ai rencontré. Mais les adhérents, ceux qui se font élire dans la boîte, c'est pas le cas. Alors t'en as qui vont être. ceux qui veulent pas faire d'efforts, mais qui peuvent aller quand même protester devant la direction, puis d'autres qui se mettent à quatre pattes, quoi, devant la direction.
Alors, ça vient des individus.
Voilà, c'est ça. C'est quand même des individus qui... c'est les individus qui font le syndicat, la section en tout cas.
Bah, moi, je crois que c'était la reconduction dans la boîte. Hein. Tu me dis si je me trompe. C'est la reconduction d'élus qui sont élus tous les 4 ans. Oui,
tous les 4 ans. Ouais.
Ouais. Oui, c'est la même équipe.
Hein. Oui, voilà, c'est ça.
Juste quelques nouveaux comme ça à la marge, mais c'est la même équipe.
Ouais. Mais c'est comme ça tout le temps, partout.
Ce qu'on lead. Ouais.
Pas qu'on c'est lead, comme ça partout, c'est même pas ça. C'est des. Oh, genre, encore de grossier. C'est des merdes. Ah, ils sont cons.
Mais ils parlent plus fort quand même, parce que je suis sûr que les auditeurs, ils entendent beaucoup. Là. Moi, je
bon,
t'entends,
ils sont stupides.
Oui, mais ça...
Franchement, c'est... Et pourtant, ils sont réélus. C'est lunaire, quoi. Lunaire.
C'est...
Lunaire.
Qu'est-ce qui fait... Ouais, donc, qu'est-ce qui fait...
Là, autant j'étais optimiste, ma poule, autant j'étais optimiste... sur, tu vois, l'idée qu'il y a un peu un frémissement chez les ploucs, qui sont pas à la FNSEA, mais qui font une action revendicative, qui est peut-être pas si corpo que ça, parce que je pense qu'ils sont brouillés, ils sont, tu vois, c'est pas encore, ce qui leur manque, c'est de penser avant d'agir. Voilà, ils ont agi avant de penser. Et, mais bon, je me dis, il y a des frémissements comme ça dans les, peut-être dans des métiers, dans des régions, dans des ça demande qu'à être bénéfique et qu'à se développer dans le bon sens pour nous, en tout cas, enfin de mon point de vue. Et là, tu te dis que ben non, c'est en fait avec des élections comme celle de ma boîte le mois dernier, enfin non, c'est ce mois-ci d'ailleurs, tu te dis ben non, en fait non. Ils sont bons à rien, en fait, bons à rien. Et le syndicalisme, ils savent pas ce que c'est.
Ben, alors, est-ce que être au CSE ou l'ancien CEDP, est-ce que c'est du syndicalisme en soi? On peut se poser la question. Parce que enfin,
d'accord. Tout de suite, je te réponds. Mais d'accord. Mais pourquoi tu te présentes avec une étiquette syndicale alors? Tu peux très bien te représenter. Tu laisses passer le premier tour et tout le monde arrive en.
Ah bon, parce qu'au premier tour, en général, les postes sont pourvus. Et après, il y a plus de place pour toi.
C'est de l'entre-soi aussi. Dans la boîte. Hein.
Oui, non mais n'empêche. Nous, il y a rarement de deuxième tour. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je m'en fous d'être... Non, ce que je voulais dire, c'est que tu peux être élu et vouloir faire du syndicalisme, mais tu n'es pas obligé de faire du syndicalisme quand tu es élu. Et les personnes qui se font élire parce qu'ils sont allés voir un syndicat et parce que ce sont les syndicats qui ont obtenu le droit de participer au premier tour, enfin l'organisation des élections professionnelles. Donc qui se présente au premier tour, et puis c'est là-dessus qu'on évalue l'audience du syndicat et qu'on on va lui accorder ou non une désignation délégué syndical. C'est plus simple quand même pour un salarié de passer par un syndicat qui va lui faire tout le courrier, qui va lui assurer quand même le côté juridique de la présentation des candidatures. Je vois que l'idée des yeux, c'est pas clair, mais... Donc voilà, c'est les, les adhérents à un syndicat donnent les noms, le syndicat il fait le courrier, il envoie ça à la direction et tout est parfait, t'as rien à faire. Mais une fois que t'es élu, puisqu'il n'y a pas de formation dans les syndicats, ou très peu... Tu vois, autant la CNT, tu vas faire, il est inscrit dans les statuts de prendre des décisions, de se réunir mensuellement, à minima mensuellement, et puis il va y avoir aussi des unions régionales de syndicats mensuels, donc il faut se réunir tout le temps et discuter tout le temps. Ça se fait bien ou pas bien, t'as le temps, t'as pas le fait, bon, bref, mais c'est possible. Les autres syndicats, les syndicats réformistes, ce que j'appelle avec un syndicat réformiste et institutionnel, il n'y a pas tout ça. Ils s'en foutent. Tu as des adhérents et puis roule ma poule pendant 4 ans. Ouais, on se reverra dans 4 ans parce qu'on va aller négocier le protocole.
Bah, mais mettre une pièce
en fin de compte, tu m'appelles au téléphone si tu as un petit problème. J'essaye de le résoudre ou je t'envoie au service juridique des trucs. Tu veux un conseil, tu vas avoir bonne conscience, je te le dis. Mais ils font ce qu'ils veulent. Nous, il y a eu un vote pour au sein du CSE pour le licenciement d'un salarié protégé. Il y a eu, sur 6 votes, il y a eu 5 votes pour le licenciement et une abstention. Un syndicaliste, même si c'est que la personne salariée protégée est une ordure ou quoi que ce soit, à minima, tu t'abstiens. Là, non. On vote le licenciement. Le patron, c'est pas le CSE qui licencie le salarié, puisque le licenciement, elle a déjà été fait une semaine avant, au préalable. Mais il donne quand même son aval.
Ah oui,
j'ai connu ça en plus. Je trouve ça d'autant plus scandaleux. Ouais. Même si le mec, c'est un con. C'était un mec, en plus. Et il s'en est même pris à moi, alors j'essaie de le défendre. Mais bon, bref. Mais je m'en fous. Le mec, il est en souffrance. C'est vrai, donc il est pas bien dans sa tête. Je crois qu'il a été hospitalisé. Ils ont appris, en plus, le jour du vote, qu'il a été hospitalisé. Ben, ça fait rien. Il vote son licenciement. Mais il aurait pu, à minima, s'abstenir, parce que de toute façon, il aurait été licencié. Tu vois,
un manque de conscience.
Donc voilà. Et pourtant, ce sont des gens qui sont syndiqués. Ça fait 10 ans, presque une dizaine d'années, qu'ils sont dans des syndicats, qui passent d'un syndicat à l'autre. Ils n'ont rien appris, ils n'en ont rien à foutre. Il n'y a pas cette conscience de classe, cette solidarité de classe. C'est « je suis élu, je fais ce que je veux ». T'as voulu me faire chier, bah tiens, t'as joué. C'est ce qu'on m'a sorti, moi. Il a joué, et bah il a perdu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, mec, qui va perdre son boulot, des trucs. Alors,
C'est pas un jeu.
Et puis moralement, quoi, enfin, je sais pas. Bon, les salariés, ils ont voté pour ça. Ça les dérange pas, visiblement. Mais de toute façon, ça les dérange pas. Ils sont pas non plus au courant, parce que personne fait de la publicité là-dessus. Tu vois. Donc, t'as aucun affichage depuis le nouveau CSE. Là, t'as encore d'afficher les professions de foi et puis les candidatures. Voilà, ça fait 3 mois. T'as rien, tu sais pas qui est délégué syndical. Enfin, si, tu le sais parce que ça parle. Mais t'as aucun affichage. C'est du grand n'importe quoi.
Et chez nous, il y a de l'affichage ?
Oui, t'as les scores.
Mais c'est tout ?
Oui. Pour l'instant, oui.
Mais moi, là, je suis content. Et bon, malheureusement, je pense qu'ils m'écoutent pas, ils m'écoutent plus. À l'UNSA, s'ils voulaient savoir la reconnaissance de la DG, Direction Générale, je leur dis bravo, félicitations, vous avez fait un score admirable, ils ont cassé la baraque. Eh ben non, ils l'ont pas eu, ça. En revanche, ça fait au moins 2 fois que la Direction Générale vient me voir pour avoir des infos syndicales. Je trouve ça rigolo. J'ai encore foutu dans la gueule de la directrice qui est en congé la semaine dernière. Et puis, qui croyez-vous qui est venu voir la directrice générale ? Elle dit, je sais pas, tu devinais, je vous en parle. Ça m'amuse. Donc voilà, celui qui est crédible, c'est moi, alors que je fais plus de syndicalisme, en fait. Et les autres qui ont été élus avec un large score, ils sont bons à rien, juste à... Ils sont même pas une aide à la direction, parce qu'ils peuvent pas les aider, puisqu'ils connaissent que dalle. Donc ça tient pas à l'organisation syndicale, ça tient quand même à ceux qui sont élus. Ils veulent faire ou pas, ils sont curieux, ils veulent faire quelque chose. Mais souvent, en fait, ils ont peur de la direction, donc ils vont pas très loin, quoi. Ils en sont pas à écrire, à faire un courrier contre la direction, même un tract, c'est pas possible. Un tract, une profession de foi pour dire hey, c'est nous les meilleurs, il faut nous les élire, oui, ça marche, hein, tu me diras. Mais un truc pour dénoncer des situations pourries, ça. Donc c'est... Bon, j'accapare beaucoup de temps pour parler de...
Non, mais c'était intéressant, parce que c'est...
Ah, effectivement, ça me déçoit aussi, ouais. Un peu, de voir comment ça se passe. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà observé, parce que les élus succèdent, et c'est tous les mêmes, quoi. Grosso merdo, c'est la même chose, hein. Il n'y en a aucun qui s'oppose. Ils sont pas en capacité. Ils ont peur, en fait. Ils ont peur de je sais pas quoi, d'ailleurs.
Alors, nous, on est sur un site un peu... Je suis sur un site un petit peu éloigné de la maison mère. Comment on dit ça? Du
Bah, bref.
Enfin, géographiquement,
siège.
Effectivement.
Oui, géographiquement vous êtes du siège. Donc, on a un peu. Enfin, un petit peu.
Plus de liberté, plus moins de pression.
Moi, je n'ai pas du tout, même. Non. Mais. pas du tout. Mais enfin, et puis, de toute façon. Mais on n'a aucune info, par exemple, sur l'élection. Ouais. Sur. Enfin. Moi, je ne m'y suis même pas trop intéressé parce que j'ai regardé ça. J'ai trouvé. La démarche lors de l'envoi des professions de foi, puis là, le peu de propagande qui a été faite par les différents syndicats, j'ai trouvé ça pitoyable. J'ai pas répondu. J'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien à répondre. C'était très, très affligeant. Mais une très grande autosatisfaction, par contre. Une très grande auto-satisfaction. Et puis c'est les mêmes, ce que je disais tout à l'heure, Bénédicte, c'est les mêmes qui sont élus, réélus. Mmh. C'est pas une force d'opposition, il n'y a pas de force d'opposition. C'est pas une force d'opposition, c'est même pas une force de proposition, pour tout dire.
Non, et puis, de toute façon, il y a aussi le fait. Alors, ils ne sont pas formés, mais ils ne sont pas convaincus hein, d'être révolutionnaires non plus. Mais les salariés ne sont pas formés par ces élus non plus. Parce que le rôle des élus, ça devrait justement de fédérer, tu vois, un esprit de résistance avec les. Donc ça ne se fait pas. Donc en fin de compte, les salariés, ils bossent. Ils ne savent pas trop pourquoi, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de l'argent qui rentre dans le compte en banque. Donc ils travaillent, quelle que soit la condition. Ils posent pas de questions, donc ils s'intéressent pas à ce qui se passe au CE, ce qui l'intéressant, enfin au CE, CSE maintenant, ce qui les intéresse par contre, c'est d'avoir des fonds, des bons de fin d'année ou enfin régulièrement dans l'année avoir des bons d'achat. Et puis voilà, ça les satisfait. Et comme ceux qui sont CE, CSE, bah c'est ceux qui donnent les bons d'achat qui sont visibles, parce qu'ils vont pas partager avec les suppléants les machins, donc. Hop, bah ils se font réélire, c'est aussi comme ça. Alors je sais pas vous dans votre boîte s'il y a ce genre de truc, mais voilà, ils sont visibles sur des choses anodines en fin de compte, même si ça améliore ton quotidien.
Oui c'est ça, c'est des petits chèques cadeaux, des trucs à la con. Par contre, faire passer imposer des congés payés. Oui, imposer des dates de congés payés, ça s'est passé, alors que il me semble normalement que le CSE doit être consulté au préalable, non? Donc ça, zéro. Là, par contre, non. C'est pas... Et alors, les scores, ils sont tous à une voix près, c'est les mêmes scores pour tous.
Oui.
16 voix, 16 voix, 16 voix.
C'est ce que j'ai entendu.
Ouais, ouais.
C'est assez... Alors, il voulait me barber mes RTT, parce que j'en ai une chier plus 12, et qui se termine. Ouais, il voulait me les retirer le 31 décembre. Je lui dis, mais tu touches mes RTT, mais je viens, toi, je te fais rentrer la tête dans ton cul, quoi. Donc, comme ça, hein. Et ils les ont laissés. C'est marrant, hein.
Ah, c'est peut-être vrai que les RTT, quand ils ne sont pas pris dans une certaine période, tu les perds.
Oui, les perds, ouais.
Bah, pourquoi tu ne les prends pas?
J'ai pas...
T'aimes jouer avec le feu, quand même.
Non, je fais ce que je veux, en fait, c'est ça le...
Ouais, enfin, si tu ne les prends pas...
C'est... Oui, mais peu importe.
Jamais les prendre. Ça sert à quoi de cumuler des trucs que tu ne prends pas? Peut-être de prendre une baffe à travers la gueule aussi, toi.
Et les... Il n'empêche qu'ils me les ont gardés. Et en fait, dès que tu as de la résistance, il n'y a plus personne.
Mais oui, non, mais... C'est
dès
ça
que tu as
la
résistance, voilà, même si tu as tort. Mais parce qu'ils ne connaissent pas plus le droit que les salariés.
C'est bien ce qui me désespère et qui m'afflige, c'est que les représentants du personnel pourraient se faire former par leur syndicat et avoir beaucoup plus d'impact pour... Mais ils ne font rien. Ils sont très satisfaits aussi. Hein. De côté, tu te fais pas chier non plus. Tu te laisses porter et puis voilà. Donc, alors... dessiner des perspectives, hein.
Il y a des aspects, on l'a vu, les aspects positifs, des espèces de un peu d'espérance sur des... Et puis, il y a quand même des points assez négatifs qui laissent penser que dans la durée, ça meurt lentement, quoi.
Est-ce qu'il ne faut pas espérer une autre forme de... de syndicalisme. Alors, s'appellerait peut-être pas du syndicalisme, mais quelque chose qui serait quand même collectif. Est-ce qu'un jour il va pas y avoir une convergence des luttes entre les Black Blocs, les Gilets jaunes et les agriculteurs de la Confédération paysanne, peut-être déjà fait dans les soulèvements de la terre. Mais est-ce que c'est peut-être pas ces choses qui vont se développer? Et puis, mais malgré tout, ça sera peut-être une avant-garde. C'est toujours les minorités qui font un peu bouger les choses et qui produisent en tout cas du
mouvement.
Du
transformation, la mutation. Oui, alors c'est vrai que l'avant-garde, moi c'est l'avant-garde, tu sais, t'as lu Marx, Lénine, cette avant-garde-là, j'en veux pas. D'accord?
Moi non plus.
Hein? Bon. Après, une avant-garde qui permette de... C'est toujours pareil, c'est pas sans chef, enfin sans être celui qui donne la leçon, parce que c'est, je trouve ça pénible.
Mais qui impulse peut-être un mouvement qui... Voilà. Et qui des idées aussi, ouais. Parce qu'il faut des idées, c'est pas juste du mouvement, comme tu disais, c'est pas juste du mouvement.
Il faut penser. C'est-à-dire qu'il faut penser, avant d'agir, il faut penser. Et souvent, là, ce qui s'est passé, là, avec moi je crois que les mouvements des agriculteurs, c'est que par endroits, on sent que ça a été un petit peu l'action qui a précédé la... Mais qu'est-ce qu'on fait, au fait, maintenant qu'on est sur l'autoroute à 14h du matin et qu'on est 60, et que le lendemain, on est 200. Ah merde, on n'a pas prévu ça. Et, alors c'est bien sur le coup, mais on sent bien que... ouais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, après, ils enchaînent. Hein. Ah, ils se réunissent autour des tracteurs, machin. Mais on sent quand même qu'il y a une part d'impro, où c'est parti de l'action un peu... une colère légitime, hein, c'est-à-dire pour certains, quand tu crèves la dalle et quand tu achètes ton lait 40 centimes alors qu'il faut payer 45 centimes du litre pour pouvoir bouffer, pas pour pouvoir être riche, hein, pour pouvoir bouffer, tu dis qu'à un moment donné, t'en as marre de te faire enculer, quoi.
Et comme disait Bakounine, comme ça je recitais un petit peu tout le monde, hein. Pelloutier, Pouget, Kropotkine... Et il faut aussi réfléchir, avant d'agir, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait.
Hein? Non, mais t'as raison, c'est un truc, à un moment donné, il y a peut-être une autre forme de... Une autre forme de... C'est une espèce de post-syndicalisme qui dépasse un petit peu... Alors attention, le pas dire... Moi, je conteste l'idée que le syndicalisme, quand on en parle, c'est une idée désuète. Pas du tout. Il n'y a rien de plus actuel, en fait. Rien de plus actuel. Le terme même, son objet et puis sa définition, c'est rien de plus actuel. Mais peut-être que, alors, tout en étant du syndicalisme, mais le penser autrement. Le penser autrement dans le... Alors, évidemment, avec des confluences, des liens tissés avec d'autres... D'autres organisations sociales.
Peut-être qu'on arrivera un jour à une organisation, on va dire, peut-être plus anarchiste que syndicaliste révolutionnaire, mais ça restera du syndicalisme révolutionnaire parce que ça sera collectif et puis. Mais ça sera peut-être pas sur les bases du syndicalisme. Enfin, ça sera sur les bases du fédéralisme, peut-être. Voilà, en tout cas, parce que c'est du fédéralisme, en fin de compte, le syndicalisme révolutionnaire. On arrive au terme de notre émission. Voilà, je sais pas si. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment parlé de ce qu'on voulait.
Si.
Bah voilà.
Ça a été, en tout cas, c'est des pistes de réflexion qui sont stimulantes. Et que. Est-ce qu'on peut encore faire du syndicalisme en 2024? Je dirais oui, mais.
Ouais, c'est. Bon, eh ben, on va vous laisser là-dessus. Je vais quand même. Avant qu'on lance le générique, il y a un mois à peu près, on avait fait une émission avec Hélène de Femmes Libres et nous avions évoqué Lucy Parsons. Et ben sachez que les éditeurs de la petite bibliopayo classique nous ont entendus. Et ils ont donc publié en 2024, nous c'était l'émission, c'était 18 décembre 2023, et ben en 2024, ils ont publié.
Ils ont filé droit.
T'as vu ça, hein? Ben on est écouté, pas par n'importe qui. Travailler dans ces conditions, jamais. Voilà, c'est un petit un recueil. Alors, sur le capitalisme, les femmes et l'anarchisme, c'est un recueil de textes qui sont parus dans les journaux dans lesquels s'exprimait Lucy Parsons, où c'est des discours lors de congrès, d'ouverture de congrès des Industrial Workers of the World. Je vous invite à lire, à le trouver. Donc, c'est la petite
librairie Payot.
Voilà. Et je crois que ça doit être 8 euros, c'est pas excessif. Mais je pense que vous pouvez trouver ça à la librairie Publico. Et en tout cas, s'ils l'ont pas, on se dépêchait de l'acquérir pour le mettre en vente. Voilà. C'est pas. Voilà, c'est très bien.
Voilà, la couverture est assez chouette.
Bah oui. Voilà, comme toujours. Voilà, bah, on va se quitter là-dessus. Tu nous lances le générique, Bénédicte. Merci d'avoir assuré la technique. Merci, Eric, d'être arrivé presque à l'heure.
J'étais là avant l'émission.
La semaine prochaine.
Oui.
Hein,
on a avec
pas de thème, j'en sais rien.
Eh ben,
c'est comme ça, c'est l'anarchie là-dedans. Bonne soirée à tous et à toutes.
Salut,
ciao.
Ciao, bisous.
Nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi,
c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4.
En groupe, en ligue, en procession, en bannière, en slip, en veston, il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, avec des gros, des petits, des durs, je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les âmes trouvent tous les vices avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. Ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air, une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction 20 ans de guerre colonialiste. La petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations, j'ai souvent commis des fautes, qu'on me donne tort ou raison, de grèves en révolution. Je n'ai fait que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui ne charronnent à la nation. En ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En procession, et puis tout